Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Les Vikings, dont l'Occident chrétien a connu les incursions à partir du 8e siècle, héritèrent d'une réputation de barbares païens d'une cruauté inouïe. Qui furent vraiment les Vikings? Des pillards, des commerçants, des mercenaires? Régis Boyer, professeur émérite de langue et littérature scandinave à l'université de Paris 4, Sorbonne, démêle le vrai du faux, le mythe de la réalité, et propose une lecture plus nuancée de la société scandinave, une société sans préjugés, qui ignorait la violence gratuite et la torture. Les Vikings, histoire, mythe, dictionnaire, un livre de Régis Boyer, publié chez Robert Laffont dans la collection Bouquins en septembre 2008. Régis Boyer, bonjour.
Bonjour madame.
Vous avez travaillé pendant près de 40 ans sur les Vikings, vous avez écrit des dizaines de livres sur le sujet, la collection La Pléiade a édité, grâce à vous, les sagas islandaises, et dans ce livre, un de plus, mais qui offre toute la synthèse de votre connaissance sur ce sujet, nous allons donc parler des Vikings, et qu'est-ce qu'un Viking ?
Oui, dans un premier temps, je dois dire que c'est une expression curieuse que de voir toute sa vie résumée en 1000 pages, n'est-ce pas ? C'est un des avantages et des inconvénients aussi de la collection Bouquins. Dans un second temps, je suis très reconnaissant aux éditions Laffont parce qu'elles m'ont permis de faire un tout en un. En fait, ce n'est pas un livre, c'est trois livres que vous avez là. Il y a d'abord une longue étude qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un Viking ?» où j'essaye de mettre les choses au point. J'essaye de répondre à la question, on en reparlera si vous voulez. Dans un second temps, parce que c'est une sorte de parenthèse, nous autres scandinavistes, et ça fait donc 40 ans que je suis scandinaviste, nous n'avons pas, enfin nous avons un double travail à faire. Nous n'avons pas qu'un travail de vulgarisation, d'enseignement, si vous voulez, qui correspondrait à nos qualifications. Nous avons en même temps, et au moins autant, un travail de démystification à accomplir. C'est-à-dire, comme vous venez de le suggérer, l'Occident balbutie, pour ne pas dire bafouille, sur le compte des Vikings depuis qu'ils existent, c'est-à-dire depuis l'an 800. Alors, dans un second temps, les éditeurs ont bien voulu reprendre un livre qui n'avait eu aucun succès parce qu'il avait été publié par une édition qui tout de suite a fait faillite. J'espère qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet. Il s'appelle Le mythe viking. Ils ont repris Le mythe viking en 250 pages. Il fait le point sur la plupart des âneries, pardonnez-moi le mot, mais c'est exactement ça, qu'on a pu dire sur le conte des Vikings depuis 1000 ans. Puis dans un troisième temps, il y a vraiment le dictionnaire, que j'ai pas voulu faire trop morceler, trop éparpiller. J'ai voulu rassembler plutôt et sujets sous quelques rubriques importantes, quitte à opérer un système de renvoi d'une rubrique à l'autre. Enfin, j'ai pas voulu que ce soit un dictionnaire, comment vous dire, atomisé, comme on fait trop souvent, notamment dans cette collection. Et ce sont plutôt des grandes entrées qui s'efforcent de faire la synthèse sur les sujets retenus. Donc j'avais trois livres en un, si vous voulez.
Donc une grande synthèse pour le plus grand plaisir des lecteurs, avec aussi chronologie à l'appui, carte, évidemment, et appareil critique.
Non, il y a la chronologie, il y a la bibliographie qui est très limitée, mais il y a deux bibliographies. Il y en a une générale à la fin, et puis il y en a un certain nombre à la fin de certains articles. Comme ça, le lecteur qui veut savoir, il sait.
Voilà. Alors, c'est un maniement très aisé, parce que la collection Bouquins, comme on la connaît bien, est effectivement une couverture souple. Donc, malgré les 1000 pages, je n'ai pas regardé, mais c'est à peu près ça. C'est très pratique pour se promener dans cet ouvrage et dans cette aventure des Vikings.
Ils ont même bien voulu ajouter quelques, pas beaucoup, mais quelques illustrations au trait, n'est-ce pas ? Ce qui est bien utile, vraiment.
Alors, on va peut-être commencer par le début, Régis Boyer.
S'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'un Viking ?
Il vaudrait mieux répondre par « qu'est-ce que n'est pas ?» Un Viking. D'abord, il ne portait pas de casque à cornes. Ensuite, il ne buvait pas le sang dans le crâne de ses ennemis. Enfin et surtout, il n'a jamais piloté un drakkar, qui est un mot qui n'existe pas dans sa langue, qui est une invention de je ne sais quel journaliste français du 19e siècle. La Scandinavie était, c'est assez amusant de dire ça aujourd'hui, mais c'est comme ça, était un pays très pauvre. Sous-développé, vous diriez. Le sol ne donnait pratiquement rien, les mines de fer de Suède n'existaient pas, celles de charbon de Norvège non plus. L'agriculture était inexistante parce que le sol était marécageux. Pas d'industrie, pas d'agriculture, il n'y avait que la pêche qui fonctionnait à peu près. Ce qui fait que dès qu'on les saisit dans notre histoire, on voit bien que leur seule façon de survivre, c'est de pratiquer le commerce. d'une part, et d'autre part, comme je viens de le suggérer, leur pays, ça c'est difficile à admettre, parce que si vous allez vous promener en Suède, Norvège, Danemark aujourd'hui, vous ne vous en rendez plus compte, mais c'est des pays ultra marécageux, comme tout le nord de l'Europe d'ailleurs.
Alors, où l'eau est omniprésente, pas seulement
l'eau
la mer, mais
les rivières, des cascades, et surtout des marécages, des lacs, etc. Si bien que, pour survivre, ils ont été obligés de mettre au point, dès le début, un véhicule, le fameux bateau viking qui s'appelle Knör, hein, en vérité, ou Skeið, ou Langskip, ou Skúta, ou Birlingur, mais surtout pas Drakkar. Bon, je n'irai bien plus.
Oui.
Alors, ce bateau leur a servi de moyen de commercer. Et là, c'est une chose que je ne comprends pas, mais on en reparle tout à l'heure fatalement. Là, on les suit très bien. On connaît les itinéraires qu'ils avaient adoptés vers l'ouest, vers le sud, vers le nord et vers l'est notamment. On connaît les comptoirs qu'ils avaient en partie fondés ou qu'ils avaient développés ou qu'on avait créés exprès pour eux. On connaît leurs truchements, je dirais, leurs intermédiaires, vous diriez leurs agents. Bref, on est très bien renseigné sur leurs itinéraires. On est aussi très bien renseigné sur l'objet de leur négoce, le bateau en question, qui est ce qui a fait le viking. Il n'y a pas de viking sans bateau, c'est le bateau qui a créé le viking. Dès que le bateau tombera en désuétude, il n'y aura plus de viking, etc. Leur bateau n'est pas capable de transporter des marchandises pondéreuses en grande quantité. C'est un petit bateau léger et qui ne contient pas beaucoup de choses. En fait, ce qui fait que c'était des commerçants, certes, mais des commerçants de luxe. Ils vendaient de l'ambre, ils vendaient des peaux et fourrures, ils vendaient de l'étain, des choses comme ça, mais pas des matières premières en grande quantité. D'ailleurs, ils disparaîtront le jour où les frisons inventeront la cogue. Qui, elle, permettait de transporter
à ce type
tout ce
de commerce.
C'est ça. Alors, on connaît leurs itinéraires, on connaît l'objet de leur trafic. Ça commence au 5e, 6e siècle. Entre 5e, 6e siècle et autour de l'an 800, ça a été des commerçants pacifiques, particulièrement doués pour ce genre d'activité. D'ailleurs, aujourd'hui, réfléchissez un peu. Vos enfants sont en train de se meubler chez Ikea, suédois. Vous allez au supermarché et vous achetez du jambon tulipe. Danois. Pour Noël, vous allez consommer du caviar entre guillemets, c'est pas du caviar, c'est des œufs de lompe islandais, et bien entendu, je ne vous parle pas de la morue norvégienne ou de pétrole norvégien. Autrement dit, ça reste aujourd'hui, 2008, de très grandes nations commerçantes. Et c'est ce qu'elles ont toujours été, seulement autour de l'an 800, pour deux raisons. La première, c'est le délabrement de l'empire carolingien, qui est devenu trop vaste, impossible à défendre, et divisé par des querelles intestines, d'une part. La deuxième raison, c'est que les Arabes font leur
apparition. On a du mal à cerner justement les causes de cette expansion.
Et ben voilà, je suis en train les avancer là. Deuxièmement, les Arabes surgissent sur la scène historique justement autour de l'an 800. Oui. Ils coupent l'axe Est-Ouest dans la Méditerranée. Donc ça bouleverse complètement la carte politique, historique et géographique de l'Europe.
La thèse de Pirène.
Coup, les Vikings qui s'embarquent pour s'enrichir. Là-dessus, au risque de passer pour gâteux, c'est une chose que je dis à peu près 100 fois lorsque je parle du sujet. Tout le peu de documents qu'on possède les concernant, c'est-à-dire les inscriptions runiques et les poèmes skaldiques, redisent à loisir qu'ils s'embarquaient Al Ablasier Fjaur.
Qui veut dire ?
C'est-à-dire pour gagner de l'argent, pour s'enrichir. C'est le seul but des Vikings, s'enrichir. Alors ils ont commencé par s'enrichir à partir du commerce. Puis autour de l'an 800, en raison des deux événements que je viens de signaler, ils se sont aperçus que bien souvent, un bon coup d'épée à tranchant double ou de fer à hache large permettait de régler les transactions beaucoup plus rapidement que des interminables palabres avec les indigènes, d'une part. Et d'autre part, ils se sont aperçus aussi que, finalement, l'Occident était très riche. L'Occident européen continental était très riche à cause des abbayes, des églises, des cathédrales, des prieurés, des collégiales, etc., qui tout avaient des trésors, et des trésors à tous les sens du mot.
Et puis, ils ne possédaient peut-être pas aussi... ne leur ont pas opposé une force ou une résistance particulière.
Alors, justement, ils se sont aperçus que c'était plus facile de s'enrichir par la violence que par le négoce, d'une part. Et d'autre part, ils se sont aperçus que les endroits où on pouvait s'enrichir, c'était les villes ouvertes ou les villes franches, c'était tous les sièges ecclésiastiques, et ils se sont précipités là-dessus. On date conventionnellement, parce que la date en question vaut ce qu'elle vaut, le début du phénomène viking au sens moderne du terme de 793, quand ils ont mis à sac la fameuse abbaye de Lindisfarne en Northumberland, si vous voulez. Ça a sûrement commencé avant. Alors, je veux souligner ça avec force. Donc, à partir de l'extrême fin du 8e siècle, à partir de l'an 800, grosso modo. Et pendant 250 ans, s'il y a une chose étonnante à souligner, c'est celle-là. Ça va durer 250 ans.
C'est sur la durée, plusieurs générations.
À partir de l'an 800, ils se précipitent sur tous les endroits vulnérables pour s'enrichir sans délicatesse. Hein. On connaît très bien leur tactique, je pourrais vous la décrire si ça vous fait plaisir plus tard. Ils se précipitent donc sur les lieux d'église. Eux-mêmes ne sont pas chrétiens. Ils vont être convertis plus tard, ce sera une des causes de la décadence de leur phénomène. Pour l'instant, ils sont, je ne sais pas si je dois dire païens, en fait, on ne sait pas grand-chose du paganisme nordique. Moi, j'aurais tendance à dire qu'ils étaient plutôt a-religieux. Mais enfin, c'est toute une autre question. Alors, ils se précipitent sur les lieux ecclésiastiques. Or, les seuls qui sachent écrire à cette époque-là, c'est les clercs. Donc, les clercs se sont trouvés être les principales victimes des Vikings et les seuls à rendre compte du phénomène.
Alors c'est eux dont on a les sources, une partie des sources.
C'est nos seules sources. Les sources locales, c'est-à-dire émanant de Scandinavie, sont très, très peu nombreuses. Si on a d'autres sources, il y a les sources arabes.
Oui.
Vous savez, il y avait deux califats arabes. Il y avait celui de Cadix, il y avait celui de Bagdad.
On a des témoignages.
Ah oui. Alors, c'était des États puissants, les États arabes. Et ils ne badinaient pas avec le pirate de passage, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, les Scandinaves, puisque les Vikings, ce sont des Scandinaves, d'abord danois, puis norvégien, puis suédois et dans un second temps islandais. Les Scandinaves ne se sont jamais risqués en territoire arabe. En revanche, ces deux États-là, Cadix et Bagdad, c'était des États forts, organisés, ils avaient leurs diplomates. Comme tous les diplomates, ces gens-là ont fait des rapports, on les a conservés. Les rapports, ils ont même été en grande partie publiés dans la Pléiade, justement. Or, le regard que jettent ces diplomates arabes dans les rapports qu'ils font, c'est un regard d'ethnologue, je dirais.
C'est
ils ne sont pas concernés,
écrit,
eux.
Là, oui.
Voilà les vraies sources dont il faudrait se servir. Avec quelques sources slaves aussi. On reparle de ça aussi, si vous voulez bien.
Le commerce des Vikings, elle est au-delà même.
Oui,
de
ça,
ces,
si vous voulez, je reviens sur ces... les itinéraires, parce que ça, c'est passionnant, vraiment.
En ce moment,
je suis en train de dire que les responsables de la création du mythe viking, c'est les clercs chrétiens, qui ont vu dans ces gens-là le bras de Dieu venu châtier l'Occident de ses péchés, enfin, toutes les fariboles que vous pouvez imaginer autour de la question. Et le mythe dure. Et ça, si vous
voulez...
Alors
là, il ne dure pas depuis 250 ans, mais depuis...
Il dure depuis
l'an 1000.
Depuis l'an 1000. Ça fait 1000 ans qu'il dure. Et j'ai jamais été... Bon, je ne suis pas là pour... c'est pas mon sujet ce matin, mais... J'ai une petite idée, c'est le mythe du Nord, je crois. Le Nord, c'est le mystère, le Nord, c'est le foyer de toutes les merveilles, le Nord, c'est l'extraordinaire, le fantastique. Je crois que c'est une question de lumière et d'ignorance de lanterne. Enfin, j'en sais rien. J'aurais tendance à raccorder le mythe viking au mythe du Nord, n'est-ce pas ? Mais voilà, à partir de l'an 800, c'est les clercs qui fabriquent le viking que vous connaissez toujours. Parce qu'il reste, dans le fond, de notre mental collectif, de notre inconscient collectif, des images inexpugnables. Vous n'avez qu'à regarder le dernier dessin animé sur les vikings, vous n'avez qu'à regarder les films américains, bien entendu, américains, c'est leur excuse. On véhicule toujours les mêmes images, les mêmes clichés qui sont faux. Les Vikings, d'abord, je veux dire ça. Aujourd'hui, il y a à peine 9 millions de Suédois. Il y a 5 millions de Danois. Il y a 4 millions de Norvégiens et il y a 300 000 Islandais. C'est-à-dire qu'au total, ils ne sont pas 19 millions. Donc, ils ne constituent même pas le tiers de la population française. Comment voulez-vous qu'ils soient les maîtres de l'Occident à 19 millions ? C'est une chose que je martèle depuis 40 ans. Ils étaient trop peu nombreux. Chaque fois que le hasard a voulu qu'il soit obligé de livrer bataille au sens normal du terme, à visage découvert, ils ont toujours été battus, madame. Je suis désolé de détruire une des images romantiques les plus inexpugnables autour de la question. On n'a pas d'exemple de victoire viking. Ils viennent mettre le siège autour de Paris. Ils rencontrent une résistance sérieuse, en l'occurrence la Dermé Gozlin qui deviendra archevêque. Ils s'en vont. Ils
donc en fait,
pas.
Soit ils repartaient, mais ensuite, sur ces 250 ans, ils se sont progressivement installés.
Alors, on en reparle plusieurs... tout à l'heure, si vous voulez, parce que 250 ans, vous avez raison, c'est un long laps de temps.
Alors...
Et bien entendu, le phénomène n'a pas pu garder la même physionomie pendant 250 ans. Il y a des phases, il y a en gros trois phases. On y revient là-dessus, si vous voulez. En ce moment, je veux simplement démythifier le viking pour dire que ça n'était pas un être violent. Oui, toute l'Europe était violente à cette époque-là, n'est-ce pas ? Mais il n'était pas plus violent que les autres. Les vrais pirates de cette époque-là, ce sont, vous le savez sans doute, les Sarrasins et les Hongrois, très curieusement. Voilà, ce sont les deux ethnies qui méritent.
Donc ce sont des commerçants, d'abord.
Ce sont d'abord des commerçants
des négociateurs.
Qui, si les circonstances s'y prêtent, passent à la brutalité.
Et qui en profitent quand...
Tout à fait.
Quand il y a des trésors à saisir.
Quand leur bateau est plein. Point, c'est tout. Et ils enterrent d'ailleurs, ce qui prouve que l'époque n'était pas très pacifique, ils enterrent même chez eux. Tous les ans, à peu près, on retrouve des trésors en Suède, Danemark, Norvège. Ils enterrent ce qu'ils ont ramené afin qu'on ne leur prenne pas quand ils repartent. Voilà, c'est ça le viking.
Et le mot viking, le mot lui-même sur le plan étymologique,
vous avez une analyse. On a beaucoup fait, mais vous allez voir que ça se tient, ce que je défends quand même. Dis-moi, j'espère bien. On a beaucoup fait railler autour du mot viking. Il y a une erreur à détruire absolument, c'est pas l'homme qui s'en bat. Parce que vikur, en vieux norrois, ça veut dire la baie, B-A-I-E, un petit golfe. On a longtemps pensé que c'était des gens qui s'embossaient au fond d'une baie, puis qui attendaient que le bateau de commerce passe et qui fondaient dessus. Ça ne résiste pas à l'analyse pour des raisons philologiques. C'est une histoire de i long ou de i bref, vous voyez. En fait, c'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est un danois. Il existe un mot latin, wikus. U-I-K-U-S, wikus, qui désigne un comptoir temporaire, un petit port qui n'est utilisé qu'à la saison propice et puis qui ne fonctionne pas quand le climat est trop mauvais. Vous pensez, par exemple, pour donner un exemple, il y a Sandvik à Paris, Londres s'appelait Londonvik, etc. Alors, il se pourrait que, et ça va dans le sens de ce que je suis en train de dire, il se pourrait que le viking ait été ce marchand marin qui allait de wikus en wikus. Rien ne s'oppose à cette étymologie-là, et elle est confortée par le fait que viking, c'est comme ça qu'il s'appelle quand il opère sur le front ouest, je dirais.
Et à l'est, vous
quand il opère à l'est, parce qu'il a opéré à l'est, il s'appelle Vareg. En français, V-A-R-E, accent grave, j'ai eu... qui se dit en vieux norrois Vairingur, qu'on trouve en grec, Varangoy, qu'on trouve en slave, Varak, qu'on trouve en arabe, Varank. Alors l'étymologie de ce mot, elle est claire. C'est fabriqué sur le mot vara, qui est la marchandise. Les varegs, ce sont des gens qui transportaient des marchandises. Mais si vous n'êtes pas d'accord, madame, on peut très bien remonter à un mot vaurar avec un a long, qui signifie le serment contraignant que se font des membres d'une petite collectivité pour se défendre en cas de danger, etc., etc. Ça correspond à peu près aux usages qui avaient lieu dans les confréries de marchands. On connaît bien ça. Jacques Hers a étudié ça en détail. Par exemple, dans le nord de l'Adriatique, là-bas, vous voyez du côté des territoires vénétiens, ça aurait donc été des confréries de marchands qui étaient liées par des serments contraignants. L'idée mercantile préside à toutes ces étymologies-là, c'est tout ce que je veux dire. Alors voilà pourquoi on les appelle vikings. Mais pas du tout l'histoire de tout ce que vous voudrez.
C'est le commerce qui est leur raison d'être.
Le commerce à leur manière. Tant qu'il sera praticable, ils subsisteront. À partir du moment où ils entreront en désuétude, ils disparaîtront. Point.
Alors, comment se sont-ils installés dans ces territoires éloignés de chez eux ?
Alors voilà, ça c'est une question importante. On va faire un tout petit peu de périodisation. Dans un premier temps, donc 800-850, c'est une période de tâtonnement.
Oui.
Il y a le délabrement de l'Empire carolingien dont j'ai parlé, il y a la montée en puissance du monde arabe. Ils sont mal assis, si j'ose dire. Ils ne savent plus s'ils existent pour trafiquer ou si, de temps en temps, ils ne doivent pas passer à des mœurs prédatrices. En fait, ça ne devient clair qu'à partir de 850. Entre 850 et 900, alors là c'est clair, et c'est la seule période où ils sont organisés, si j'ose dire, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus lucratif, beaucoup plus intéressant, de faire des descentes manu militari, si j'ose dire, sur les points faibles que j'ai soulignés tout à l'heure, que de pratiquer le négoce. Alors, c'est seulement de 850 à 900 qu'on est en droit de parler de phénomène, je dis pas militaire, hein, vous notez bien que j'évite soigneusement ce mot-là, on a dit assez d'âneries là-dessus.
Vous allez, on va y revenir sûrement à propos du mythe.
Oui, certainement. Enfin, voilà, à ce moment-là, 850-900, ils sont vraiment plutôt pillards que marchands. Mais, avec réserve, ils sont pillards, comme j'ai dit tout à l'heure, quand c'est possible, là où c'est possible.
Voilà.
Si c'est pas possible, pour des raisons de temps ou de lieu, ils n'insistent jamais.
Alors, à un moment, quand c'est possible, il y a une installation.
Alors, leur but, vous n'oubliez pas, j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est de devenir riches. Alors, ils sont pas idiots. Ils voient bien au hasard de leur pérégrination nautique que c'est beaucoup plus agréable de vivre en Normandie que de vivre dans le sud de la Norvège même, que c'est beaucoup plus agréable de vivre en Irlande que de vivre dans les îles du Danemark. Alors, il y a une phase qui va de 900 à 980, une longue phase, où leur volonté, ça n'est plus tellement de piller, mais de s'installer sur place. J'aime pas beaucoup le mot colonisation parce qu'il a trop de connotations déplaisantes, mais c'est l'époque des établissements.
Mm-hmm.
Oui, c'est ça. Ils s'établissent autour de la ville de York, dans la province qui, en Angleterre, s'appelle toujours aujourd'hui Danelaw, la région qui subit la loi des Danois. Ils s'établissent dans le sud de l'Irlande, grosso modo l'Irlande catholique d'aujourd'hui. Pas de rapport. Hein. Ils s'établissent dans les îles nord-atlantiques, Orcades, Shetland, Hébrides, Man, Féroé. Ils découvrent, peut-être découvrent, enfin, ils s'installent en Islande à partir de 874
là,
jusqu'à 930. Ils colonisent l'Islande, là, le mot est clair. Ils s'installent en Normandie, ça on peut reparler de ça parce qu'on en écrit des bêtises sur la Normandie. Et ils s'installent dans le nord de la Russie, autour de la ville de Novgorod, qu'ils appelaient eux Holmgardir, où ils fondent un État, autour de la ville de Kiev, qu'ils appelaient eux Kainegardir, et ils fondent un autre État, les deux États fusionneront, et comme on les appelait Russes. Là-dessus, on peut discuter longtemps. On les appelait Rousses, grec Ros, arabe aussi Ros, R-Oulon-S ou bien R-Oulon-S. Pourquoi on les appelait Ros? Alors, oui, j'ai mon opinion, ça va de soi. Le mot peut renvoyer au gothique Ravur, qui veut dire roux, rouquin. Je trouve que ça ne résiste pas à l'analyse, parce que j'ai vécu 10 ans en Scandinavie. Il n'y a pas plus de Scandinaves roux qu'en France, hein, ou que dans les pays slaves. Enfin, bon. L'autre étymologie me paraît beaucoup plus tentante. Il y a une province en dessous de Stockholm, encore aujourd'hui, qui s'appelle comme ça, qui s'appelle Roslagen, c'est-à-dire le pays qui obéit à la loi du gouvernail, Roudir. J'y crois volontiers parce qu'on a gardé, pardonnez-moi le pédantisme, vous savez qu'ils étaient très forts sur la législation, on a des tas de codes de loi germaniques, et on a gardé un code de loi qui s'appelle Bjarkeyjarréttur, le droit de Björke. Björke, c'est justement un des endroits où ils avaient un centre commercial en Suède même. Il a peut-être existé donc une province qui obéissait à cette loi particulière qui s'appelait la loi du gouvernail, Rutslag. Donc ce seraient des gens qui obéiraient à Rus. Et du coup, comme vous le savez, la Russie s'appelle Russie parce que ce sont eux qui lui ont donné son nom. Ça, c'est une chose que les Slaves, surtout, j'ai aussi pas mal vécu dans les pays slaves à l'époque soviétique. Hein. Et ça, ils ne voulaient pas admettre. Mais maintenant, ils en conviennent. C'est comme ça. Alors, ils s'installent à demeure. Ils épousent les femmes locales. Ils pratiquent leur activité majeure qui est le commerce. Alors, ça, c'est un phénomène étonnant qui en dit long sur la véridicité du fait. C'est qu'en 2 ou au maximum 3 générations, ils ont disparu. Il n'y a plus de Scandinaves. Il s'installe en Normandie. En 2, 3 générations, il n'y a plus de Danois. Je crois que c'est surtout des Danois qui sont devenus normands, mais bon, peu importe. Ils s'appellent Dupont-Durand, si j'ose dire, n'est-ce pas?
Des endroits, c'est plus rapide.
Ils ont perdu leur
Normandie assez rapide.
Spécifique. Oui, on reparle de la Normandie dans 2 minutes, si vous voulez, parce que là, il y a aussi des mythes à détruire. En fait, ce que je veux dire, c'est que leur capacité d'adaptation, d'assimilation, va contre le fait que ce seraient les êtres supérieurs qui imposeraient leur loi. C'est exactement l'inverse. En fait, ils se fondent dans la population locale, ils s'assimilent complètement les usages, les lois, les coutumes et la religion. Et voilà, et il n'y a plus de Danois, Suédois, Norvégiens, Islandais. Il y a des Normands, des Russes, des Irlandais, des Anglais, en fait, tout ce que vous voudrez.
Quels traités alors ont-ils conclu en Normandie en 911?
Qu'est-ce que je peux vous répondre? C'est délicat, ça. Ce qui est délicat, c'est qu'ils ont donné son nom à la Normandie, là aussi.
Oui, alors parce que pour les gens,
personne ne proteste devant le fait qu'ils ont donné son nom à la Russie.
Vikings.
Je ne connais pas de Russes qui remontent, qui prétendent qu'ils descendent des Scandinaves. Alors pourquoi les Normands y tiennent-ils tant? Ça remonte à ce mythe du Nord dont je vous parlais il y a 5 minutes, madame. Donc, il y a eu Charles le Simple, Charles le Sauve, qui était le fameux imbécile, hein, si vous voulez. Une des chances, si j'ose dire, des Vikings, c'est qu'ils ont eu affaire à des souverains pusillanimes comme ça, Charles le Chauve, Charles le Simple, chez les Anglais, Ethelred et Unready. Qui n'ont pas su organiser la défense. Parce que l'histoire prouve que partout, ils se sont défendus correctement, les non-vikings. Par exemple, en Angleterre du Sud, il y a eu Alfred de Wessex, Alfred le Grand. Il a organisé tout de suite tout un système de défense avec des fortins, avec des corps mobiles. Jamais plus ils n'ont insisté. Ils n'étaient pas assez nombreux. Pardonnez-moi de me répéter, madame. Alors, en Normandie, il y a donc eu ce souverain, Charles le Simple, pusillanime par excellence, qui en avait assez de les voir harceler son état parce qu'il ne savait pas se défendre contre eux. Alors, il a passé alliance avec un certain Rollon, qui est probablement un personnage légendaire. Il devait s'appeler Hrólfr, mais les spécialistes dans votre serviteur, j'ai publié sa saga il n'y a pas bien longtemps, se battent pour savoir qui était ce Rollon-là. Enfin, ce qu'il y a de sûr, c'est Charles le Simple a passé un traité avec ce Rollon-là, du type « tu me donnes des cadres pour gouverner mes états indisciplinés et surtout pour lutter contre tes compatriotes qui viennent harceler mes côtes à longueur d'année. Et moi, premièrement, tu te fais chrétien, deuxièmement, tu épouses ma fille et troisièmement, je te fais duc de Normandie. » Alors, si j'ai été clair, Rollon, quel qu'il soit, qui cherchait à s'enrichir et à s'établir, ne s'est pas fait dire deux fois. Il s'est fait chrétien, il a épousé Gisèle, et il a institué ses amis, ses cadres, j'ai dit. C'est le bon mot. Un peu partout en Normandie, ce qui prouve qu'il y a tant de toponymes normands qui soient des toponymes de type scandinave, les noms en fleurs, en bec, en co, etc. Ce qui fait que la Normandie n'est pas du tout un territoire scandinave, c'est un territoire auquel les Scandinaves ont fourni ce que vous appelez des cadres. Parce que la population locale est restée, si j'ose dire, autochtone, étant donné le petit nombre des envahisseurs. Voilà ce que je peux répondre là-dessus.
Revenons un petit peu maintenant au mythe viking, après avoir vu que c'était des commerçants, évidemment, très informés, entourés d'agents, dont capables d'assurer aussi la sécurité quand ils étaient en contact avec d'autres royaumes, ou bien de coloniser ces terres et de s'y installer durablement. Nous avez parlé tout à l'heure des clercs qui écrivaient sur les vikings, qui évidemment on ne pouvait pas les voir d'un bon œil et ont contribué à les décrire comme des païens cruels. Mais vous nous disiez au début de l'émission que le mythe viking durait depuis plus de 1000 ans. Vous avez étudié au cours de votre vie justement les différents thèmes de ce mythe. À chaque époque correspond un petit peu un mythe viking. Alors on va commencer peut-être par les grandes idées qu'on retrouve dans ce mythe et puis après peut-être on...
Je peux répondre globalement. Oui. D'une phrase, l'Occident, est-ce que ça lui a servi de prétexte ou est-ce que c'était vraiment une thématique profonde, ne leur a pas pardonné de ne pas être chrétien. Parce qu'il y avait des barbares chrétiens, il y avait des envahisseurs chrétiens. Regardez votre histoire, n'est-ce pas? Alors, donc ils ne savaient pas comment se défendre, si j'ai été clair, contre eux, contre leur technique de... Pouvez-vous parler de leur tactique dans 20 secondes? Ils ne savaient pas se défendre, alors ils ont accusé le diable d'être derrière ça. C'était des suppôts de Satan, madame, tout simplement.
Des sorciers.
Dès le début.
Hein. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les chroniques.
On trouve ça chez Denis Piram, on trouve ça chez Vasse, on trouve ça chez Benoît de Sainte-Maure, enfin, chez tous les commentateurs qui sont tous chrétiens. Je vais vous dire pourquoi. Voilà leur tactique, ça, on est bien renseignés. Ils arrivent de nuit et en silence. Leur knurr, leur bateau, leur scale, contient à tout casser 40 hommes d'équipage, pas plus, 40. Qui rament, qui marchent à la voile, ce qui fait le viking, c'est le bateau, hein, je l'ai dit en commençant. Ils arrivent tout doucement, la nuit tombée, et ils s'embossent dans une île, toujours. C'est Thanet pour la Tamise, c'est Wessel ou Jeufosse pour la Seine, c'est Noirmoutier pour la Loire. Cette île est toujours intéressante parce qu'elle n'est pas loin d'un grand monastère, d'une abbaye, de tout ce que vous voudrez. Alors, ils attendent que la nuit tombe, voilà la nuit, ils descendent de leur sacré bateau. Ils ont en général embarqué quelques chevaux, comme la tapisserie, la broderie de la reine Mathilde à Bayeux le montre. Mais s'ils n'en ont pas embarqué, c'est pas grave, ils en raflent en cours de route. À toute vitesse, ils se précipitent sur le point vulnérable. Donc une abbaye, un cloître, ouais, ce que vous voudrez. Ils sont bien renseignés, ce sont des maîtres de la guerre psychologique. Pourquoi ? Parce que ça fait des siècles qu'ils ont des agents sur place. J'ai commencé par là tout à l'heure, n'est-ce pas ? Ils savent que l'abbaye de Sainte-Maure, par exemple, qui est sur la Loire, il y a un trésor extraordinaire. Vous savez, j'habite en ce moment, depuis longtemps, à Saint-Maur-des-Fossés. Ça s'appelle Saint-Maur-des-Fossés parce que c'est les reliques de Saint-Maur sur la Loire qui ont été transportées à Saint-Maur-des-Fossés parce que les moines en avaient assez d'être pillés. Alors, je précipite sur l'abbaye. Ils savent où est le trésor. Ils s'y rendent à toute vitesse, toujours, hein, sans la moindre délicatesse, avec une petite hachette qu'ils portent à la ceinture. Ils coupent en morceaux les calices, les ciboires, les patènes, enfin tout ce qui a de la valeur, sans se soucier de la qualité artistique de la chose. Ils font ça dans des sacs, ils s'en vont aussi vite qu'ils sont arrivés, ils mettent le feu. Ce sont les plus grands incendiaires du Moyen-Âge. Ils remontent sur leurs chevaux, avec leur sac plein de...
Et s'évanouissent dans la nature.
Ah oui. Et à toute vitesse, ils ont récupéré leur bateau, ils se sont réembarqués, avec ou sans les chevaux. Vous n'avez pas le temps de réagir, ils sont partis. C'est une image de l'ennemi absolu. Vous ne savez pas comment vous défendre, n'est-ce pas ? Un jour, l'Occident apprendra à se défendre. Alors à ce moment-là, ce sera l'époque que j'ai appelée celle des établissements, n'est-ce pas ? Parce qu'ils verront bien qu'ils peuvent faire. Mais voilà la tactique. Alors, les populations ont été mises en condition par des façons d'attaquer pareilles. Et de là est née la terreur que « A furore normanorum liberanos domine » de la fureur des Normands, libère-nous, Seigneur, n'est-ce pas ? C'est de là que ça vient. C'est qu'on ne voyait pas comment se défendre contre ces gens-là. C'est des maîtres de blitzkrieg, comme on dit en allemand, ou de la guerre psychologique, comme vous diriez. Et c'est ça qui a instauré ce fameux mythe, et c'est ça qui a assis leur autorité.
Régis Boyer, merci. On va marquer juste une courte pause et reprendre dans quelques instants la suite de cet entretien. Régis Boyer, vous évoquiez tout à l'heure la terreur semée par les Vikings, qui n'étaient pas des saints, mais qui n'ont pas été que des guerriers, des pirates, etc. Alors, ce mythe s'est installé dès le départ dans les chroniqueurs du Moyen-Âge. Et comment a-t-il évolué ? Quels sont les thèmes ensuite qui vont prédominer dans le développement du mythe viking ?
Mais écoutez, j'ai fait ma petite thèse du doctorat d'État. À l'époque, il en fallait deux, vous savez, c'était la thèse complémentaire sur le mythe viking. Pour le Moyen-Âge, c'est des suppôts de Satan. Point.
Des païens. Sent...
Ah oui, ça, alors,
des sorciers.
Ça, il n'y a pas de doute. Ensuite, et ça, vous m'expliquez parce que je n'ai jamais trouvé, à partir de l'âge classique, ce sont des ancêtres de la chevalerie. Alors ça m'a toujours fait profondément rire parce que c'est une notion qui est étrangère. À partir du romantisme, ça a été la mer, l'aventure, homme libre, toujours, tu chériras la mer. Ils s'en contrefichaient. C'est des esprits aussi peu romantiques qu'on peut le rêver. Pour eux, ce qui les intéressait, c'était de fabriquer un bateau qui soit capable d'affronter toutes les mers possibles, capable de circuler dans une petite rivière avec un tirant d'eau ridicule, aussi bien que de traverser l'Atlantique. C'est le même bateau.
Alors, comment est-ce qu'on est passé, justement, de ce mythe des guerriers cruels semant la terreur à des hommes libres, aventureux ?
Oui, c'est une bonne question. Ouais, ouais.
Des hommes libres, c'est un peu ça qui va prédominer à l'âge romantique.
Je crois qu'au fond du mythe viking, il y a l'aventure avec un A majuscule, n'est-ce pas ? Et ça n'est pas totalement contestable. Il fallait avoir les tripes chevillées au corps pour s'en aller de Bergen, vous voyez, c'est dans l'extrême sud de la Norvège, jusqu'à Reykjavik, qui n'existait pas, qui est aujourd'hui la capitale de l'Islande, en passant par l'Atlantique Nord. Ça n'est toujours pas des mers clémentes. Aller des Féroé à Reykjavik, par exemple, c'est une épreuve que j'ai subie pas mal de fois, faut le faire. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont été ceux qui se sont risqués à un type d'aventure qui n'était pas courant. Après tout, c'est des Norvégiens qui ont découvert les deux pôles, n'est-ce pas ?
Et à propos des Vikings, on s'accorde aujourd'hui quand même à...
Ah oui, ils sont allés en Amérique, oui, ça, on en parle, c'est-à-dire, on n'y coupe pas.
On n'y coupe pas, ils sont allés jusqu'à Terre-Neuve.
Non, je crois que ce qui régit le mythe viking, parce qu'on n'a pas fait tout, à partir de la fin du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui, c'est des surhommes. Il y a du Nietzsche derrière. Je comprends, je n'admets pas, mais je comprends que l'idée ait pu en venir à certains parce qu'ils ont fait cette poignée d'hommes et de femmes, ce que personne n'a été capable de faire à égalité d'époque. Même les Phéniciens, même les Marseillais, non, ne se sont jamais rendus capables de prouesses comparables. Et puis, l'époque actuelle, elle mettrait plutôt l'accent sur la truculence, la paillardise.
Alors ça, c'est la dernière...
Oh, oui, mais ça, c'est complètement ridicule.
La dernière,
c'était un type de réflexion ou de réflexe dont ils se moquaient éperdument. Alors, ils étaient en Islande, où ils se sont installés entre 874 et 930. Là, il y a eu un certain Éric le Rouge, dont vous avez entendu parler, qui était un mauvais garçon, qui s'est fait condamner, et qui a découvert le Groenland. C'est important, ça. Il n'a pas découvert l'Amérique, il a découvert le Groenland. Il faut insister là-dessus parce qu'il y a un livre qui a eu du succès en France il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, et qui dit des sottises sur la question. Les Islandais, Islande, ne sont pas des Vikings. Les Islandais représentent un étonnant mélange de Scandinaves et de Celtes. Je crois qu'il y a plus de Celtes que de Scandinaves dans la population qui s'est installée en Islande entre 874 et 930. Ça me paraît important. Alors, il se trouve que la famille d'Éric le Rouge est pour moitié d'origine celtique. Et les Celtes avaient des récits de voyages fabuleux. Ça s'appelle Imrama dans les langues celtiques. Et on ne m'ôtera pas de l'idée, mais je n'ai pas de preuve absolue à vous fournir, malheureusement, madame. On ne m'ôtera pas de l'idée qu'il y avait quelqu'un dans la famille, parmi les ancêtres d'Éric le Rouge, qui racontait des histoires. Vous savez, il y a le fameux voyage de Saint-Brandan, vous avez entendu parler. Il a dû aller au Brésil, c'est pas impossible, ça. Dans son carag, c'était un moine, fort du principe de la pérégrinatio, qui était tellement vital chez les moines irlandais. Bon, c'est une parenthèse. Il a entendu parler d'un pays plus à l'ouest. Est-ce qu'il en a entendu parler ? Ou est-ce qu'il a voulu tenter l'aventure ? Je ne sais pas, personne ne sait. Il est parti, il a atterri au Groenland. Groenland de l'extrême sud, où il s'est installé. Il s'y est installé, il a trouvé que le pays était beau, alors ça m'a toujours laissé rêveur. Il a décidé de l'appeler Pays Vert, Groenland. Vous êtes déjà allé au Groenland ?
Non.
Voilà, moi, j'y suis allé plusieurs fois. Appeler ça Pays Vert, enfin peut-être, je ne veux pas fâcher les Inuits. Ou les Groenlandais, puisque ça existe. Et un de ses fils, qui s'appelle Leifur, fils d'Eric Eriksson, se serait embarqué de l'extrême sud du Groenland et aurait atterri soit au Labrador, soit en Terre-Neuve, l'un ou l'autre. Pas en Amérique continentale, mais ou bien Labrador ou bien Terre-Neuve. Ça paraît évident, ça. Je suis de ceux qui croient que c'est pas une légende, qu'il a vraiment été soit en Terre-Neuve, soit au Labrador. Pourquoi ? C'était mon ami Paul Adam, qui est mort maintenant, qui m'avait fourni cet argument. Il y a des courants qui vont du sud du Groenland en Amérique du Nord. Vous posez le bateau sur le courant, il y va tout seul. Et donc, il a découvert... On a 2 ou 3 textes qui se contredisent allègrement, qui racontent des fariboles à mourir de rire. Mais il doit y avoir un fond de véridicité derrière. Ils ont vraiment découvert une série de côtes qui s'appellent Markland, Hetluland, Vinland... Ils ne s'y sont pas installés. Ils ont vu, tout simplement, puis ils sont partis. Ce sont les découvreurs de l'Amérique du Nord, dans le sens que je viens de limiter, mais ce ne sont pas les colonisateurs de l'Amérique du Nord. Il faudra attendre Christophe Colomb. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Je tiens à mettre l'accent. Mais voilà ce qu'on peut dire. À mon avis, puisqu'on parlait de ça il y a 2 minutes...
Donc des gens qui aiment l'aventure
jusqu'au
bout, la curiosité...
C'est ça, ça s'inscrit dans la thématique de l'aventure.
Dans cette thématique.
Que ce soit une aventure consciente et délibérée ou que ce soit la force des choses qui les y pousse.
Donc ça, c'est la partie qui va émerger au 19e siècle, ce côté aventureux, etc. On parlait aussi de liberté, d'homme libre.
Laissez tomber.
Qu'est-ce que vous pensez de la théorie ?
C'est du romantisme.
Ça, c'est du romantisme.
Ah, tout à fait. ils n'étaient pas libres du tout.
Et Montesquieu et Voltaire, comment les percevaient-ils, ces vikings ?
Qui est Voltaire ? Oui, on en a très peu parlé. Non, ça n'intéressait pas tellement. Non. Celui qui en aurait parlé un petit peu plus, ce serait Montesquieu. Mais non, c'est pas... C'est les romantiques qui se sont... Mais des petits romantiques, hein, pas les grands. Par exemple, Victor Hugo n'en parle simplement pas. Et ça, c'est remarquable. C'est-à-dire, ce sont des peuples germaniques, hein, madame. Pas oublier ça. Alors, l'étiquette germanique a tendance à couvrir la réalité scandinave, qui est différente. Ce sont des Germains, ça c'est sûr. Mais sans des Germains septentrionaux. Ils n'ont rien à voir avec les Germains continentaux, Germains de l'Ouest, Germains de l'Est, etc. Il faut insister là-dessus.
Alors, qu'est-ce que vous pensez des travaux de l'Américain Jesse Byock ?
J'en parlais tout à l'heure.
Oui.
C'est un vieil ami, mais c'est un Américain, pardonnez-moi, madame. Il y a deux choses à dire. La première, je viens de la dire il y a 2 minutes. C'était de lui que je parlais il y a deux minutes. Il intitule son livre « L'Islande des Vikings ». On ne peut pas trouver un titre plus faux. Ce ne sont pas les Vikings qui ont fondé l'Islande. C'est une communauté de Scandinaves, appelez les Vikings si ça vous chante, et de Celtes. Pourquoi est-ce que je dis ça avec tant d'assurance ? Parce que les vestiges intellectuels et artistiques que l'on possède sont beaucoup plus celtiques en esprit que scandinaves. En ce moment, il y a au
Musée
de Cluny une superbe exposition que je vous invite à aller voir, publicité gratuite, hein, sur les Celtes et les Scandinaves. Vous serez frappé de voir que la plupart des objets qu'ils donnent pour scandinaves, c'est pratiquement impossible de dire, sauf pour les spécialistes comme votre serviteur, ça c'est pas celtique, c'est scandinave. Vous verrez, vous serez surpris.
J'y suis allé.
Eh bien, alors, vous avez dû voir comme ça se ressemble. Jesse Byock, il a fait cette erreur fondamentale. La seule chose où il est raison, c'est que les Germains, plus que les Celtes, avaient le sens de la loi, du droit, du code à suivre. Ça, il ne l'a pas vu. Et la deuxième erreur qu'il fait, c'est que c'est un Américain, après tout. Bon, je n'ai pas de mépris pour les Américains, mais les Américains, ils n'existent en tant que tels que depuis 200 ans passés, n'est-ce pas ? Donc, ils n'ont pas d'antiquité. Donc, ils sont sans cesse et férocement à la recherche d'antiquité. Et comme ce sont des Germains, après tout, en majorité, les Américains, ce sont des Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons sont des Germains. Alors, ils se cherchent des ancêtres prestigieux. Alors, vous combinez tout ce que j'ai dit de méchanceté sur le compte du mythe viking depuis que nous sommes ensemble, n'est-ce pas ? Avec le fait qu'il n'a pas de racines, ce Jesse Byock. Et vous obtenez le livre en question. Ce que je ne comprends pas, c'est que Flammarion ait fait traduire ce livre-là sans prendre conseil de bons spécialistes. Il y a de très très bons spécialistes aux États-Unis ou en Angleterre qui auraient pu tout de suite dire « Attention, c'est un livre de gamin, quoi, pardonnez-moi. »
Connaissez le vieux norrois, toutes ces sources, et les sagas également, et puis les Eddas. Donc, quelle langue parlaient les vikings, justement ? Vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Ça s'appelle le vieux norrois. Il en est question dans le dictionnaire.
Oui.
C'est une variante de germanique nordique. Enfin, c'est le germanique nordique. L'allemand dérive d'une langue qui était commune à tous les peuples germaniques. Il y avait une koiné, là, ça s'appelle, n'est-ce pas ? Et les langues scandinaves représentent la branche septentrionale de ce germanique ancien. L'allemand, l'anglais représenteraient la branche occidentale du germanique. Et il y a eu une branche orientale représentée par le gothique sans H, le gothique sans H, qui a disparu complètement, elle. Elle a donné naissance à la traduction fabuleuse d'une Bible par un évêque qui s'appelait Ulfila, mais c'est tout. Alors, autour de l'an zéro de notre ère, toutes les langues germaniques étaient identiques, ça s'appelle germanique commun. J'ai parlé de koiné tout à l'heure, Et il y a eu une différenciation progressive en fonction des influences subies à partir de l'an zéro, à peu près. Hein. Une différenciation qui fait que les langues germaniques continentales, comme l'allemand, l'anglais, ont subi les influences de toutes les peuplades avoisinantes. Le slave, le grec, les langues romanes, etc. Et ça a donné naissance à l'allemand, à l'anglo-saxon, etc. Alors que les langues scandinaves seraient restées plus pures, si j'ose dire, moins susceptibles d'avoir subi des influences extérieures. Ça s'appelle le vieux norrois. Et ce vieux norrois-là, c'était la langue des Vikings. J'explique ça dans mon dictionnaire en détail avec des tableaux, tout ce que vous voudrez. Et il se trouve que, donc, autour de l'an 900, ils ont colonisé, pardonnez-moi, l'Islande. Et ils lui ont donné sa langue. Alors, il y a un phénomène étonnant. Pour des raisons historiques et géographiques, l'Islande continue de parler aujourd'hui, 2008, la même langue qu'il y a 1000 ans. Un gamin de 10 ans dans les rues de Reykjavik lit sans effort un texte du 12e siècle, s'il est écrit en orthographe normalisée, bien entendu. Imaginez ça chez nous, n'est-ce pas ? C'est pas pensable. Voilà, alors c'est ça la langue des Vikings. Si vous cherchez ce que parlaient les Vikings, allez en Islande. Voilà, la langue que parlent les Islandais. Prononciation à part, peut-être, en tout cas pour le reste, c'est vraiment la langue des Vikings.
Ah, et ils se comprenaient malgré les différences régionales.
Encore aujourd'hui, Danois, Suédois, Norvégiens s'entrecomprennent et s'entrelisent sans difficulté. Pas les Islandais, parce que c'est une langue qui est restée bloquée il y a 1000 ans. Mais l'Islandais est aux trois autres langues scandinaves, ce que le latin est aux langues romanes.
Alors, dans les clichés sur les Vikings, quel est celui qui vous a mis, on va dire, le plus en colère ?
Ça, c'est une question inattendue. Je suis tout le temps en colère, moi, vous avez repéré ça, n'est-ce pas ? Je suis du type irascible. Qu'est-ce qui m'a le plus agacé ? Je crois que c'est le mythe de la femme viking, excusez-moi, n'est-ce pas ? J'ai donc vécu 10 ans en Scandinavie. Les femmes scandinaves ne sont ni plus belles ni plus laides que les nôtres. Comment dire, ça se vaut bien. Or, la femme viking a été idéalisée dès le début, n'est-ce pas ? C'est une espèce de madone, d'ange, de ce qu'on voudrait. Le dernier en date à avoir brodé autour du thème, c'est Strindberg, le Suédois. Mais... Alors, c'est peut-être ça qui m'a agacé, j'en sais rien. Je ne suis pas capable de répondre à votre question. Il y a une chose que je voudrais dire, madame. Ce phénomène a commencé autour de l'an 800. Il s'est achevé autour de l'an 1050, donc il a duré 250 ans. Il est impensable qu'un pareil phénomène, dont on vient de suivre de façon tout à fait remarquable l'évolution, ait pu exister en tant que tel et durer. Alors je voudrais attirer l'attention, c'est une de mes préoccupations, c'est ce que je poursuis comme effort depuis que j'existe, intellectuellement je veux dire. Ça n'est pas pensable si l'on ne suppose pas, si l'on ne postule pas, derrière l'existence d'une vraie culture et d'une vraie civilisation. Et ça, si ce dictionnaire peut rendre service, c'est là. Ils avaient un système d'organisation sociale, ils avaient un système d'organisation juridique, ils avaient un système d'organisation mentale, morale, sur la religion, j'en parle guère parce que on ne sait pas trop, qui fait qu'il y avait une civilisation derrière ces hommes et ces femmes-là. C'était pas des brutes, c'était pas des barbares. Il faut vraiment insister là-dessus. Pourquoi les a-t-on traités de barbares ? Parce que, au début de notre ère, il y a eu un phénomène qui n'a jamais reçu d'explication vraiment satisfaisante. Des tribus danoises, suédoises, norvégiennes ont déferlé sur le Midi, comme ils disent eux, c'est-à-dire sur l'Allemagne, sur l'Italie, sur l'Espagne, etc., qui s'appellent Vandales, qui s'appellent Goths, Ostrogoths-Visigoths, qui s'appellent Lombards, qui s'appellent Hérules, qui s'appellent Francs, etc. Eux, c'était probablement des barbares. Notez mon adverbe, c'était probablement des barbares. C'est-à-dire, eux, vraiment, ils descendaient pour incendier, violer, piller, tout ce que vous voudrez. Et alors, j'ai peur que 8 siècles après, l'Occident, l'Occident dans son mental collectif, et conserver le souvenir de ces authentiques pillards-là, qui les transposaient des uns sur les autres. Mais les Vikings n'étaient vraiment pas des barbares. Leur culture, leur civilisation, si vous êtes allé voir donc cette exposition au musée de Cluny, vous en êtes convaincu, soutenez la comparaison avec les nôtres, hein. Il n'y a aucun doute.
Pourriez-nous parler à propos de la culture viking, justement, de la... entre guillemets, l'invention de la poésie
Oui, c'est une excellente question, je vous félicite. Donc, leur littérature démarre, si je peux m'exprimer de la sorte, à partir du IXe siècle. D'abord, ils consignent, par écrit, c'est les Islandais, hein. C'est un phénomène islandais. Et si vous m'expliquez pourquoi vous rendez service à la science, moi je dis, ça fait trois fois que je vous le dis, que c'est parce que l'Islande est un mix de Celtes et de Germains.
Vous parlez de miracle islandais.
Et voilà, oui. Alors, ils ont commencé par consigner par écrit les grands poèmes mythologiques, religieux, gnomiques, éthiques, héroïques, etc. Ça s'appelle les Eddas. Celle qu'il faut lire, c'est l'Edda, l'Edda poétique. Parce qu'il y en a une autre, ça s'appelle l'Edda en prose, ou l'Edda de Snorri Sturluson, qui est une sorte de commentaire de la première. Mais si vous voulez les textes, c'est l'Edda poétique. Ensuite, ils ont consigné la poésie skaldique. Alors là, madame, merci de la question, parce que j'étais en train de l'oublier. Depuis lors, avant comme après, l'Occident n'a jamais inventé une poésie aussi compliquée, aussi élaborée, aussi sophistiquée que celle-là. Quand mes étudiants me disaient « les barbares, etc. », je leur faisais un petit cours sur la poésie skaldique. C'est la plus compliquée de toutes les poésies qui est jamais expliquée. Encore aujourd'hui, les savants islandais, ils découvrent une strophe skaldique quelque part, il leur faut plusieurs jours pour arriver à la décrypter. Bon, et puis en troisième lieu, mais c'est plus récent ça, c'est-à-dire les Eddas peuvent remonter au 7e siècle, la poésie skaldique 8e, 9e, et ensuite. Et vers la fin du 12e siècle, ils ont, c'est ma vraie spécialité ça, oui. Ils ont composé les sagas, qui sont des récits en prose.
Des premiers romans, on pourrait presque dire.
Si vous voulez, oui, qui sont des espèces de chroniques. À cheval sur l'histoire et le roman, justement, inspiré.
Alors ça, et ça, ces sagas arrivent après que les Vikings soient disparus, bien sûr.
Les sagas ne parlent.
Voilà, c'est juste pour distinguer.
Quand la première saga apparaît,
c'est-à-dire
du côté de 1180, le dernier Viking est sec, madame, il est complètement sec, il est mort depuis un siècle et demi, c'est fini. Sagas sont un genre en prose qui vous raconte la vie d'un homme ou d'une communauté, des origines à sa mort, avec ses variations sur ses antécédents et sur ses descendants. C'est des textes qui n'ont jamais pu être imités. De temps en temps, il y a quelqu'un qui veut écrire une saga, il rate automatiquement. Vous avez entendu parler, par exemple, de l'anglais Goldsworthy, Forsyth Saga, et d'autres, quoi. C'est vraiment une création originale, les sagas. En quatrième lieu, et ça c'est un phénomène saisissant, ils se sont mis à traduire, aujourd'hui ils sont 300 000, à l'époque les meilleures estimations disent qu'ils étaient 35 000. Alors vous vous débrouillez avec ça, il faut imaginer toute cette île en train de gratter du parchemin de 0 à 24 heures, hommes, femmes, enfin c'est comme ça. En quatrième lieu donc, ils ont traduit ou adapté en vieux norrois, en islandais, en vieil islandais, tout ce que l'Occident pouvait publier de scientifique, entre guillemets, sur le plan mathématique, sur le plan géologique, sur le plan historique, tout a été traduit. C'est étonnant, c'est bouleversant. On n'a pas d'exemple de cette boulimie intellectuelle là, ailleurs.
Comment on peut l'expliquer ?
Ça fait trois fois que j'invoque les Celtes et le mixte Celte-Germain. Il y a l'insularité aussi. C'est pas facile de vivre dans une île, même si elle est grande. J'y ai vécu 2 ans, on sait qu'on est dans une île. Il y a peut-être aussi le déracinement. Eux non plus n'avaient pas d'ancêtre immédiat. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais je suis conscient du mauvais aloi scientifique de ce que je suis en train de raconter.
Vous pourriez nous citer quelques vers de poésie ?
Ah non, par cœur, non.
Non, non.
Mais l'Edda poétique a été traduite in extenso.
Oui.
Je dirige aux Belles Lettres une collection qui s'appelle Classiques du Nord, dans laquelle paraît de temps en temps un volume de vieux norrois, de traduits. Donc, si vous cherchez des documents, vous avez.
D'accord. Régis Boyer, merci de nous avoir présenté les Vikings.
C'est moi qui vous remercie.
Le mythe viking, et de nous avoir quand même aussi parlé de dictionnaire qui accompagne cette publication chez Robert Laffont, dans la collection bouquins, Les Vikings, histoire, mythe et dictionnaire. Et dans le dictionnaire, on trouve des entrées effectivement assez surprenantes sur les rites, sur mercenariat, sur la mort. Il y a beaucoup de...
Alors, c'est très complet finalement. Je suis très reconnaissant à Guy Stavridès parce qu'il m'a permis de faire une sorte de tout en un.
Il vous a obligé à être précis par la composition de ce dictionnaire. Et puis, il y a aussi beaucoup de périodisation, c'est assez clair, on s'y retrouve facilement. Quelle est l'entrée qui vous a donné le plus de fil à retordre?
C'est évidemment la poésie skaldique.
Ah, alors?
Expliquer la poésie skaldique à un non-initié, c'est presque désespéré. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait là. Je fais ce que j'ai pu, c'est tout. D'ailleurs, partout, dans toute la vie, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais la poésie skaldique, c'est... Enfin, j'ai écrit 2 livres sur la poésie skaldique, n'est-ce pas? Mais l'article là, ça vous donnera une idée, c'est tout. D'ailleurs, je ne cherchais rien d'autre, madame. Il ne faut pas faire de mégalomanie.
Très bien. Alors, au musée de Cluny, en ce moment, il y a une petite exposition.
Ça s'appelle Celtes et Scandinaves. Hein,
et
voilà.
Une petite exposition qui s'appelle Celtes et Scandinaves, rencontres artistiques du 7e au 12e siècle. Ce sont exposées à peu près une centaine de pièces.
Oui, c'est ça, une centaine.
Dans 2 salles du musée où on trouve à la fois des objets, des croix, des évangélières, des fragments de stèles. Et puis. Il y avait j'en avais jamais vu, un œuf de résurrection. Vous pourrez nous expliquer ce que c'est, un œuf de résurrection?
Non, ça, c'est pas scandinave, ça. Hein.
Ouais.
C'est probablement sous une influence slave.
Oui.
Et qui est-ce qui a colporté ça? Je sais pas. D'ailleurs, je suis pas responsable du choix de ces objets-là. Hein. On ne m'a pas consulté, d'ailleurs, en plus. Ça dirais-je avec fureur. À mon avis, ça n'est ni celte ni scandinave, c'est slave. Mais il est possible qu'il ait été décoré selon des techniques celtiques, ça, tout à fait.
En tout cas, il y a ces enchaînements, ces enchevêtrements de figures animalières.
Ah, c'est tout à fait
avec,
autant dans un cas que dans l'autre, hein, celtique ou scandinave.
Voilà. Donc, on invite le public à se précipiter à cette exposition.
Elle vaut la peine, je crois.
Merci, Régis Boyer.
C'est moi qui vous remercie.